Mes bien chers frères, mes chers amis, ceci n'est pas un sermon, c'est plutôt une conférence théologique. Et nous poursuivons notre étude de l'âme humaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Après avoir étudié avec saint Thomas d'Aquin la sensibilité, donc les sens externes et les sens internes surtout, nous arrivons évidemment à l'intelligence. Et d'emblée, saint Thomas nous surprend avec la question « L'intelligence est-elle passive ?» Voilà une question qui est bien opposée à l'orgueil moderne, et nous aurions tous tendance à répondre que l'intelligence est une puissance ou une faculté active. Saint Thomas dit « Oui, elle a une certaine action, nous verrons plus tard, parce que c'est évident que c'est nous qui réfléchissons. » Et donc c'est nous qui découvrons la vérité. Mais en réalité, nous découvrons une vérité qui existait avant que nous la découvrions. Et cette vérité, nous la recevons, et c'est en ce sens-là que l'intelligence est une faculté passive, c'est-à-dire qui reçoit. Or, même si l'intelligence est une faculté active, ce n'est pas là sa définition, et ce n'est pas l'élément essentiel. L'élément essentiel, ce qui définit l'intelligence, c'est qu'elle reçoit la lumière de la vérité, vérité qui est en Dieu en tout premier, donc lumière qui vient de Dieu. D'où une nécessité d'humilité devant la réalité, devant le vrai, et de fidélité à Dieu. Seule l'intelligence de Dieu est purement active et non pas passive. Purement active, non pas en sens qu'elle fait quelque chose, mais en ce sens qu'elle est parfaite. Elle est en acte, comme on dit en philosophie. C'est-à-dire que pour connaître, Dieu n'a pas besoin de sortir d'un état de veille. Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Il le connaît dans un seul acte. Nous ne savons pas tout, nous ne connaissons pas tout, et nous recevons la vérité des choses. Regardez, quand on observe les abeilles, l'homme ne crée rien, il ne fait rien, il découvre. Il découvre une sagesse, il découvre une bonté de Dieu, il découvre la vérité de Dieu. Dieu a fait les abeilles ainsi. Si on sort de ces exemples qui sont au plus bas niveau de l'échelle et qu'on essaye de comprendre ce qu'est la famille, ce n'est pas l'homme qui fait la famille. Oui, un homme fonde une famille en sens que l'homme et la femme se choisissent pour fonder la famille. Mais ce qu'ils vont fonder, ils en ont reçu la connaissance de Dieu. Et même lorsque l'intelligence de l'homme agit, puisque nous verrons qu'il a un intellect spéculatif, enfin, que son intellect est à la fois spéculatif et pratique, spéculatif pour connaître et pratique pour diriger l'action. L'intellect pratique ne dirige pas l'action n'importe comment, il la dirige en fonction de la vérité. Le maçon est obligé de respecter le sens de pose de la pierre. Et oui, mes chers amis, parce qu'il y a un sens de pose de la pierre. Dans la carrière, les pierres forment des lits, et vous êtes obligé, dans la construction, de remettre la pierre dans le même sens, parce que si vous la mettez verticale, c'est tentant, évidemment, si vous voulez faire une belle colonne, vous prenez une pierre, vous la redressez. Seulement, comme la pierre n'a pas été faite dans le sol, dans ce sens-là, elle n'a pas la solidité suffisante. Vous ne pouvez redresser une pierre, dans les cathédrales par exemple, que pour des motifs décoratifs, mais pas pour assurer la solidité de l'édifice. Donc pour poser une simple pierre, l'intellect pratique est obligé d'être fidèle à ce que l'intellect spéculatif a reçu. Et puis, pour faire le plan de l'église, l'architecte est obligé d'être fidèle à ce que l'intellect spéculatif lui a montré ce que doit être une église. On ne fait pas une église n'importe comment, parce qu'une église, même si c'est vaste, ça n'est pas une halle de marché, ça n'est pas un stade, ni un palais de justice. Toute connaissance est une abstraction. Les anges n'ont pas besoin d'abstraire par eux-mêmes, parce que Dieu leur fournit directement les idées abstraites, ou qui sont une participation à sa science divine. Nous, les hommes, je vous l'ai déjà dit, il nous demande de trouver la vérité en écartant la coque sensible sous laquelle se cache la vérité. Et c'est dans cet aspect de recherche que l'intelligence est active. Elle découvre, c'est-à-dire elle enlève la couverture, voyez, elle découvre sous les apparences sensibles la vérité intellectuelle. Et puis elle dégage des vérités les plus basses, ce qui est encore trop lié au sensible, pour monter progressivement vers des vérités qui sont de plus en plus pures, donc de plus en plus élevées, donc de plus en plus proches de la science de Dieu. Toute connaissance est une abstraction. Les sens abstraits des conditions matérielles dans lesquelles la chose sensible connue existe. Vous ne recevez pas une pierre dans l'œil lorsque vous connaissez la pierre, ni une abeille dans l'œil lorsque vous voyez une abeille. Vous abstrayez des conditions concrètes, matérielles, dans lesquelles la pierre ou l'abeille existe, pour conserver la forme, ce qui donne forme à cette matière. Et l'intelligence, à son tour, abstrait de ce que les sens lui apportent, elle abstrait ce qui est universel sous le sensible, c'est-à-dire l'être. Elle découvre ce que la chose est. Non pas seulement quelle forme elle a, comme la statue découverte par la vue, mais ce qu'elle est profondément, au-delà de la forme sensible. Deuxième partie de cette causerie, mes chers amis, l'idéalisme, c'est-à-dire le contraire de ce que nous venons d'exposer. La question de la connaissance a toujours été un problème épineux pour les hommes. Est-ce que je connais vraiment ce monde que je ne vois pas? Le premier, dans les âges de la chrétienté, parce que je ne parle pas des philosophes anciens avant le Christ, le premier, à l'époque de la chrétienté, a été le franciscain Occam, père du nominalisme, qui affirmait que notre intelligence est beaucoup trop faible pour connaître les réalités. Alors, il sauvegardait la foi, mais du coup la foi ne reposait plus, elle n'est plus une vérité, elle est quelque chose de totalement déconnecté du réel. Ça paraît très beau, très mystique, mais ce n'est pas humain, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Occam affirmait par conséquent que les mots n'expriment aucune réalité, ils sont un classement facile que nous appliquons aux choses pour pouvoir nous débrouiller dans la vie. Les mots expriment ce que nous voyons, mais n'expriment pas le sens profond des choses. Après cela, alors, je ne fais pas toute l'histoire, évidemment, de ces déviations sur la connaissance, je vous donne quelques points clés. Après ça, vous avez Descartes. Alors, Descartes, là, c'est un orgueil monstrueux. La première chose que je connais, c'est moi-même. Et tout ce que je le connais à partir de moi. C'est le sens du « je pense, donc je suis ». Je pense, je sais que je pense, donc je sais que je suis. Ça paraît vrai parce que s'il est vrai que je sais que je pense, il est donc vrai que je sais que je suis. Mais là n'est pas le problème. C'est que Descartes fait de soi-même le point de départ de toute connaissance. Et donc tout ce qui est extérieur est connu par rapport à soi-même. Alors que c'est exactement l'inverse, je me connais par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que Je sais ce que sont les corps, et je sais que j'ai un corps. Je sais ce que sont que les esprits, et je sais que j'ai un esprit. Je sais ce qu'est l'être et l'être universel, et je sais que je suis une petite partie dans tout l'être de la création. Je sais ce qu'est Dieu, et je sais que je suis dans la dépendance de Dieu comme une créature. Avec Descartes, lorsqu'on découvre Dieu, on découvre Dieu comme en référence à l'homme. Alors on est dégagé de toute dépendance envers la vérité divine. Puis on arrive à ce pseudo-philosophe Kant, un Allemand, et tous ceux qui l'ont suivi, tous les idéalistes qui l'ont suivi. Un monde au-delà de la pensée est impensable. Oui, c'est un adage complètement idiot. Ben évidemment qu'un monde au-delà de la pensée est impossible, c'est une évidence. Mais que répondre à ça? Que le monde n'est pas au-delà de la pensée, mais qu'au contraire, la pensée nous fait pénétrer jusqu'aux limites de tout ce qui existe, puisqu'elle nous fait entrer dans la sagesse de Dieu et la vérité de Dieu et la pensée de Dieu. Affirmer qu'un monde au-delà de la pensée est impensable, c'est affirmer qu'on ne peut pas connaître les réalités, et que par conséquent, chacun se débrouille en recréant le monde qui lui convient. Chacun fait son monde par ses idées, en manipulant les choses comme de la pâte à modeler. Et là, il y a deux conséquences. La première, c'est l'orgueil. La deuxième, c'est la guerre. Et il y a même une troisième conséquence, c'est que pour mettre fin à la guerre, c'est la tyrannie. La première, c'est l'orgueil, parce que toutes ces erreurs ont une cause morale. C'est le refus de connaître Dieu, parce qu'à ce moment-là, il faudrait dépendre de lui. Kant va bien admettre une certaine existence de Dieu, mais suffisamment vague pour que cela ne gêne personne. Cet orgueil, il suffit de constater autour de nous aujourd'hui, c'est l'orgueil de Vatican II. La dignité de l'homme, la liberté de l'homme, on n'a rien à imposer à l'homme. L'homme a le droit de manifester que ses options religieuses sont capables d'organiser la société. C'est en toutes lettres dans le document Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse. Nul ne peut être empêché de manifester ses options religieuses, ses croyances, et de montrer que ses croyances sont aptes à organiser la société. Et puis au-delà de l'Église, c'est tout l'orgueil de l'homme qui prétend nier l'existence du genre masculin, enfin de l'homme et de la femme tout simplement, qui nie plus ou moins l'existence de l'esprit, qui affirme qu'on peut équiparer l'esprit avec l'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui est tout sauf une intelligence, c'est des pures mathématiques, rien d'autre. Des calculs de probabilité. C'est la prétention de changer la famille, de changer le monde. Tout doit changer. La deuxième conséquence, évidemment, c'est la guerre. Parce que si mes options religieuses, si je prétends imposer mes options religieuses pour organiser la société, et que un autre prétend imposer des options opposées, pour organiser la société, évidemment, ça va être la guerre. Je suis actuellement en Alsace, où j'exerce le ministère de ce samedi et du dimanche. Et je viens de discuter avec un bon fidèle qui me disait que son grand-père était un grand catholique, un bon catholique pratiquant, vivant au milieu d'un village protestant. Parce que vous avez en Alsace des villages catholiques et des villages protestants. Et ce bon fidèle me disait, c'est impossible pour un catholique de vivre dans un village protestant. La mentalité n'est pas la même, les activités ne sont pas les mêmes. Et m'expliquait-il, son grand-père était obligé d'être très sévère envers son père pour l'écarter des influences protestantes. Comment voulez-vous que ce ne soit pas la guerre dans une société lorsque les uns refusent le divorce et que les autres l'admettent? On va dire, oh, il n'y a qu'à marier les catholiques entre eux, ils refusent le divorce, et puis les protestants entre eux, ils l'acceptent. Mais vous avez nécessairement un moment où le catholique dit, et pourquoi je ne ferais pas comme les protestants, et qui ont le droit de divorcer? Et puis on voit bien quel est le chaos actuel qui naît de la rencontre de prétendues religions qui ne sont que des inventions du diable, qui se font la guerre entre elles et qui font surtout la guerre à la chrétienté. Le diable souffle sur les braises, il entretient le chaos, et quand le chaos est devenu insupportable, eh bien tout le monde aspire à un pouvoir fort, et c'est la dictature, qui n'est évidemment pas la dictature de Dieu, parce que d'abord Dieu n'est pas dictatorial. Voilà, mes bien chers frères, l'intelligence est une faculté passive parce que nous sommes à l'école du réel et que ce n'est pas nous qui fabriquons le réel. Le problème, et c'est la dernière partie de cette causerie, elle sera un peu plus brève, c'est que le libéralisme est passé par là et que quand vous discutez avec quelqu'un en lui parlant de se mettre à l'école du réel, il est d'accord avec vous. Il est d'accord pour se mettre à l'école du réel qui l'arrange, et vous constatez vite qu'il n'est plus à l'école du réel quand ça le dérange. Se mettre à l'école du réel, ça n'est pas seulement avoir un jardin potager pour découvrir les conditions de vie dans lesquelles le bon Dieu nous a mis. Bien sûr, le jardin potager aide beaucoup à cela. Ça nous fait comprendre que rien n'est stable, ça nous fait comprendre que l'homme n'est pas maître des choses, ça nous fait comprendre qu'il faut tenir compte des saisons, des températures, du sol, de la nature du sol, etc., etc. Enfin, vous comprenez bien que ce n'est là qu'une partie du réel. S'il suffisait d'avoir un jardin potager pour être à l'école du réel, ça serait un peu facile. Non, vous avez toute l'école du réel qui est l'école de l'humilité devant la sagesse de Dieu. Et ça s'oppose directement au libéralisme. Le libéral fait des choix, il y a des vérités qui ne le dérangent pas et qu'il accepte, et puis des vérités qui le dérangent et qu'il met de côté. Voilà, mes bien chers frères, pourquoi saint Thomas d'Aquin avait raison encore une fois de poser cette première question, l'intelligence est-elle une faculté passive? Pourquoi ça serait une erreur de passer par-dessus en croyant que c'est une question oiseuse et qui n'a pas grand intérêt? C'est au contraire une question primordiale. Oui, l'intelligence est une faculté passive en ce sens qu'elle reçoit. C'est la vérité qui forme l'intelligence et non pas l'intelligence qui forme la vérité. Je vous conseille la lecture si ces sujets vraiment vous intéressent. Problème et grand courant de la philosophie par Louis Jugnet, que je peux vous fournir si vous voulez. Rappelez-vous ce que disaient les prêtres missionnaires de retour de Chine après avoir été chassés par le communisme. Si nous avons commis une erreur, nous les prêtres, c'est de ne pas avoir enseigné la philosophie à nos fidèles et particulièrement la métaphysique. Et si vous, vous commettiez une erreur, mes chers amis, ça serait de ne pas étudier la philosophie que nous vous enseignons. Essayez de faire ce cours de philosophie à vos enfants. Vous verrez d'abord combien ça les intéresse. Et cela vous obligera à creuser toutes ces vérités, ces belles vérités. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.